C'est pour Casanova un lieu où il passe, un lieu où il est né, bien sûr, un lieu qu'il traverse, un lieu qu'il quitte ou qu'il retrouve, mais ce n'est jamais un lieu où il réside, où il habite. Et curieusement, effectivement, on ne trouve dans les mémoires à peu près aucune description des monuments, des musées, des galeries, des églises. Pas du tout, alors que en revanche, il peut s'étendre sur tel ou tel monument qu'il aura visité dans tout le reste de l'Europe. Alors, si Venise est si singulièrement absente de son œuvre, c'est parce qu'elle est trop présente en lui. Je crois qu'il est lui-même tellement Venise qu'il n'a pas besoin de la décrire. C'est l'homme de Venise, c'est l'âme de Venise, n'est-ce pas ? C'est l'homme vénitien par essence. Donc, partout où il ira, il transportera Venise avec lui.
Et en quoi incarne-t-il l'homme de Venise?
Il est l'homme de Venise parce qu'il est l'homme du théâtre, parce qu'il est l'homme de la fête, parce qu'il est l'homme du plaisir, de la jouissance, parce qu'il est l'homme de la peinture, de la couleur, du trompe-l'œil, l'homme du masque aussi, l'homme du carnaval. Il est le Vénitien. Venise, vous savez, ce n'est pas seulement un décor et un trompe-l'œil, c'est aussi ce qu'il y a derrière le décor. Et ce qui est extraordinaire chez Casanova, c'est que non seulement il vous montre tout l'aspect rutilant, tout l'aspect flamboyant du théâtre, mais il décrit aussi avec un réalisme saisissant tout ce qui est l'envers, la coulisse. Et alors là, c'est la maladie, la souffrance, la crasse, n'est-ce pas ? C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ce double visage de Venise qui est à la fois une terre boueuse, n'est-ce pas ? Une espèce, c'est cette rose qui est née dans la boue. Eh bien, il y a ce double visage de Venise dans Casanova. Et c'est en cela qu'il est proprement Vénitien. Il est le Vénitien.
Alors c'est l'historien Maurice Levert au micro de Stéphane Martinez. Alors Venise, ça suivait, comme vous avez entendu, l'Orlando Furioso. Ça vous fait plaisir, Philippe Solers, l'Orlando Furioso, parce que c'est la page 107 de votre livre. Vous expliquez qu'il est chanté par Marilyn Horne et que c'est un moment exceptionnel pour vous, un moment exceptionnel pour évoquer Casanova. Et bien sûr, Venise, dont vient de parler Maurice Levert. Alors, je voudrais justement qu'on parle de cette présence de Venise chez Casanova, qui est quand même très importante. Et même s'il n'en parle pas beaucoup lui-même, est-ce qu'il est vraiment Venise par ce goût du plaisir? Est-ce que Venise a cette importance? Quand il dit « Ma mère me mit au monde à Venise le 2 avril, jour de Pâques de l'an 1725 », et puis ensuite, vous écrivez, il dit « Elle eut la veille une forte envie d'écrevisse. Je les aime beaucoup. Oui, forte envie d'écrivisse. Oui. » Ça, c'est l'homme marié avec la psychanalyste.
C'est formidable parce qu'il écrit ça à la fin de sa vie et il se place dans le désir de sa mère juste avant qu'elle accouche. C'est-à-dire, la veille, elle a eu une forte envie d'écrevisse. Je les aime beaucoup. Quand il dit « je les aime beaucoup », ça veut dire qu'il est en exil là-bas, au nord-ouest de la Tchécoslovaquie, très loin. Donc, c'est une compression du temps. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'il ne parle pas de Venise. Il en parle énormément. Énormément. Et il y a toutes les histoires, d'abord... S'il a été obligé de quitter Venise, Venise, c'est aussi l'évasion de la prison des plombs, qui dure pendant très longtemps, mois après mois. C'est quelqu'un qui est dans un cachot, avec des rats et des puces, et qui, avec un verrou transformé en pieu, va s'échapper par les toits après avoir été changé de cellule, etc. Donc, il y a tout Venise autour de cette prison qui est là. Et puis, il y a surtout, avant, tous les épisodes dans les casinos. Il parle énormément de cette Venise du XVIIIe siècle où la vie était arrivée à un degré de liberté incroyable, où les religieuses sortaient le soir pour revenir le matin, etc. Donc là, il y a un poète qui est peut-être en effet son père génétique, en tout cas symbolique, qui s'appelle Baffo, qui est un admirable poète pornographique vénitien dont on doit lire absolument les poésies, qui parle admirablement de la Venise de cette époque.
Alors, puisque vous parlez de la prison dont il s'évade, j'aurais juste vous interroger sur un point que vous touchez dans votre livre et qui concerne son compagnon. Son compagnon de fuite.
Le moine, Balbi.
Et à propos de ce compagnon, il dit qu'il n'est pas assez désespéré pour ne pas craindre la mort.
Mais oui,
c'est vrai. Alors c'est intéressant parce qu'il y a une réflexion que vous ne faites pas et que cette question que je voudrais vous poser. J'ai eu l'impression que s'il n'est pas assez désespéré pour craindre la mort,
assez ça signifie... Assez désespéré pour ne pas...
J'ai bien compris pour ne pas craindre la mort. Non, pour craindre la mort.
Non, pour ne pas craindre. Excusez-moi, la formule exacte, c'est très important.
Pas assez désespéré.
Il n'est pas assez désespéré pour ne pas craindre la mort.
Alors justement, ce qui signifie que pour lui, c'est quand même quelque chose qui serait au bout, ce désespoir. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'il regarde à un moment ? Il y a un moment où il a une envie de se suicider.
Il regarde toujours la mort en face, oui.
C'est-à-dire qu'il y a un moment où il a envie de se suicider.
Oui.
Et vous évacuez la chose en disant que ce n'est pas lui, ça. C'est, je veux dire, c'est fugitif, ce n'est pas essentiel.
Mais je ne suis pas... Non, excusez-moi. Je crois qu'au contraire, c'est essentiel.
Ah bon ?
C'est quelqu'un qui regarde... on peut en faire, si vous voulez, beaucoup là-dessus, sur le tragique de Casanova. D'ailleurs, tout le monde a envie qu'il soit finalement angoissé, puni, il dissoluto punito, c'est Don Giovanni, hein, c'est le sous-titre. Le dissolu doit être puni, mais Mozart a ponté, en effet, peu brillant mémorialiste, et Casanova qui a mené la main au livret, se sont amusés avec la crédulité de l'époque. Non, quand il veut se suicider, il a des formules extrêmement importantes sur le suicide, et il dit que le suicide vient... On ne parle pas du suicide par maladie physique insupportable, par souffrance intolérable, hein, de l'euthanasie en quelque sorte. Mais il dit, et ça c'est très important, je sentais que j'allais devenir fou, et donc je préférais me tuer plutôt mort que fou. À quoi il ajoute, toute personne qui se suicide pour des raisons donc d'infection psychique devrait attendre un peu. Parce qu'il peut se produire un événement tel que le suicide devient sans objet. Donc c'est une réflexion d'une profondeur considérable. Imaginez que tous les gens qui se suicident, alors qu'ils ne sont pas atteints d'une maladie mortelle, le font en réalité parce qu'ils ont peur de devenir fous. C'est la folie ou le suicide? Ça va très loin quand même.
Risque.
Oui, justement, Philippe Solers, j'ai l'impression qu'il y a deux manières fausses peut-être de lire Casanova. L'une qui consisterait à trouver, comme Stefan Zweig par exemple, qu'à force de dire que la vie pour lui était un bonheur, une légèreté, etc. Trop léger, et de le mettre de ce côté-là, du côté de cette légèreté-là. Une version.
Mais c'est l'épisode que je raconte avec Mitterrand, vous savez. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans le livre.
Bon, donc il y a cette version-là, et puis il y a l'autre version donc, que vous venez de rappeler, celle de nier justement cette légèreté-là et d'en faire un angoissé caché derrière la façade du jouisseur. Or, justement, vous parliez de ce sens du tragique, même s'il est paradoxal. Chez Casanova, j'aimerais bien vous entendre sur ce sens du tragique.
Pour qu'il y ait de l'éclat, pour qu'il y ait des couleurs, pour qu'il y ait du bleu, du jaune, du rouge, du vert qui sonne, il faut aussi qu'il y ait du noir. Hein, sans quoi, les couleurs ne sont pas là.
Il n'y a pas tellement de noir dans le livre de Solers.
Il suffit de très peu de noir, comme aurait dit Manet, pour que les couleurs chantent.
Alors, il y en a très peu.
Mais oui, parce que sinon, c'est une croûte.
D'accord.
Et plus les couleurs sont... Et plus, je crois que c'est un point de vue de pensée, ça. Plus les couleurs sont éclatantes, et plus vous avez... Il y a peu de noir chez Van Gogh, vous savez. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui fait chanter la couleur à tel point que... Alors, nous revenons à l'épisode avec Mitterrand, que je voudrais raconter.
Auquel vous
parce
tenez,
que,
donc allons-y.
Tout de même, parce que ça me donnera l'occasion. Voilà. Donc, c'était Mitterrand en 88, on déjeune ensemble, il arrive, et il me dit... je suis en train de lire Casanova. Voilà. Et il y avait Octavio Paz, poète, surréaliste, qui dit... Oh, Casanova, non, c'est pas bien, il est superficiel, il a pas le sens du tragique. Le cliché classique, comme il y en a tant sur Casanova. Et Mitterrand dit, ah, vous trouvez ce sens de l'instant, cette frénésie, hein, quand même. Il est malade à l'époque. Hein. Donc il sait ce qu'il est. Puis il est à Venise, souvent. Et, hein, vous trouvez, hein, monsieur Solers, alors, hein, bon, quoi, hein, vous trouvez qu'il manque du sens du tragique? Bon, donc c'était le président de la République française, je le rappelle au cas où on l'aurait oublié, et qui lisait Casanova dans un moment difficile, maladif de sa vie, donc un peu tragique, et qui y trouvait en quelque sorte un médicament puissant pour vivre un peu plus longtemps. Voilà. Et ça, je crois que c'est important. J'entendais tout à l'heure les propos sur la maladie. Il y a une formule de Joubert que j'aime beaucoup, c'est « dans la maladie, la santé se repose ». Donc il y a cette alternance chez Casanova de repos d'une santé peut-être exubérante.
Alors Philippe Solers, vous avez dit quelque chose que je ne peux pas ne pas relever tout à l'heure, à propos de Zweig, en disant que Zweig s'était trompé. Il y a un point au moins sur lequel il a raison, parce que vous aussi, vous vous trompez sur certains points de Casanova, on va y revenir. Mais moi, il me semble que sur Zweig, par contre, il y a une chose sur laquelle il a raison, c'est le Casanova européen, c'est-à-dire le Casanova politique qu'il voit, de gens ont vu avant Zweig.
Absolument, c'est la politique de Casanova, mais Zweig, non, je veux dire quand Zweig le trouve que finalement, c'est une bulle irisée, vide, etc. Bon, mais européen, oui, là nous sommes d'accord. Et alors là, c'est un point très très important qui est peu abordé. Il y a sa position par rapport à la Révolution française, il y a un Casanova politique, indubitablement. Et d'abord, il a fait beaucoup de missions secrète, diplomatique, sur laquelle on est mal renseigné la plupart du temps. Et ensuite, indubitablement, c'est un grand porteur de témoignages sur ce qu'était l'Europe des Lumières, c'est-à-dire l'Europe française.
Alors, vous voulez bien aller plus loin que la question que vous posez, à quoi bon un libertin en temps de détresse ? Essayons de creuser cette question. Mmh. À quoi bon un libertin en temps de détresse ? Mmh. Est-ce que finalement, Zweig ne nous donne pas une petite clé qui nous permettrait d'avancer ? C'est qu'un libertin prend de la distance, au fond, par rapport à la situation.
Vous savez bien comment Zweig a fini. Donc, c'est en effet, dans une époque absolument coincée, l'histoire de l'Europe...
Zweig s'est suicidé, donc il était au Brésil.
Bien sûr, oui. Mais oui, parce que le monde avait basculé dans la dévastation de l'Europe. Or, l'Europe est des Lumières, encore une fois, il n'y en a pas d'autres, reste complètement enfouie. C'est-à-dire que le malaise que vous avez aujourd'hui sur le plan politique ou social vient de cette espèce d'enfouissement et de refoulement de cette Europe des Lumières. Voilà le problème. Et donc, vous avez au centimètre carré, si je peux dire, un nombre de génies considérables, commencé par Mozart, Voltaire, la liste est longue. Eh bien, pourquoi est-ce que ça a été aussi refoulé, à commencer par Casanova lui-même et par son texte écrit originellement en français? C'est la question que je pose. Donc, comme tout le monde est angoissé par l'Europe, eh bien, il suffit de dire Casanova qui est à l'aise partout. Alors, à Paris, à Madrid, à Saint-Pétersbourg.
C'est-à-dire, c'est libertin subversion, libertin capable de penser l'Europe parce que capable de penser des dimensions qui ne sont même pas encore réalisées concrètement.
Je crois que l'Europe avait comme enjeu la liberté de penser qui s'accompagne en effet d'un point de vue extrêmement libertin. Libre, autrement dit, il y a liberté dans tout ça, et qu'il y a eu un acharnement au 19e siècle, et au 20e, ai-je besoin d'insister, puisque c'est le siècle des massacres, pour empêcher ça. Donc la question est énorme en tant qu'on prendrait l'histoire humaine sur de longues périodes. Il y a des périodes où, en effet, on peut respirer, expérimenter, s'expérimenter soi-même en tant que corps, où en général, comme par hasard, les femmes parlent beaucoup et commencent à dire ce qu'elles ont envie de dire, non pas instrumentalisées pour faire comme on veut qu'elles disent. Hein, Casanova a une formule magnifique quand il est en Espagne à l'Inquisition. Il dit, les femmes étaient toutes prêtes à ce moment-là à se venger de ceux qui voulaient contrôler leurs pensées. Voilà. Et évidemment, il trouve évidemment des complices immédiats.
Tania Risk.
Oui, pour revenir aux Lumières, Philippe Solers, est-ce que voir en Casanova un véritable homme des Lumières, c'est considérer quand même les Lumières autrement que la vision canonique qu'on peut parfois en avoir, notamment qu'on considérait qu'il s'agit peut-être aussi aujourd'hui, moins de bannir les superstitions, l'occultisme au nom d'une raison triomphante, que d'explorer avec lucidité et sur soi-même, comme le fait Casanova, tout le champ de l'illusion humaine, donc aller voir comment ça fonctionne, privilégier l'expérience comme porteuse d'erreurs, mais comme riche de vérité, etc. Et donc une autre vision, finalement, que celle des encyclopédistes et philosophes qu'on apprend...
Telle qu'elle a été falsifiée au 19e et au 20e siècle. D'abord par une présence... Enfin, Monsieur Homais, voltairien, parce que c'est une énormité dans Voltaire. Voltaire, c'est autre chose que le voltairianisme. Voltaire est plus... Vous ouvrez Candide aujourd'hui, il n'y a pas une Grèce dans ce récit. C'est un récit que vous pouvez ouvrir tout de suite et qui, vous pouvez vous débarrasser de presque toute la littérature contemporaine en ouvrant Candide de Voltaire, je vous assure. Vous ouvrez la fenêtre, c'est immédiat. Et Mozart, c'est la même chose, etc. Donc, pourquoi y a-t-il eu cet engorgement, cette punition, cette psychose et finalement, cette folie et cette tuerie?
Alors, il y a chez Casanova, puisqu'on vous parliez tout à l'heure des femmes, et on a déjà parlé, mais je voudrais aussi y revenir, parce que ça me paraît absolument essentiel, un respect... Alors, tout à l'heure, le mot « dignité » a été prononcé. Chantal Thomas a dit, et Chantal Thomas que vous avez publié vous-même.
Oui, j'étais content de l'entendre parce que c'est moi qui ai publié son livre.
Oui, alors justement, Chantal Thomas a dit non, c'est trop loin, dignité. Et moi, je pense pourtant que dignité convient bien, dignité des femmes, parce qu'elles sont des interlocutrices, elles pensent, elles sont actives, elles ont des désirs, et surtout, ensuite, après avoir été séduite par Casanova, elle continue à avoir une vie extrêmement développée, dont elle se confie éventuellement à Casanova, tranquillement, comme si de rien n'était, et comme si restait entre eux une image très forte, et comme si la fidélité pouvait exister par-delà les stéréotypes qu'on avance sur l'infidélité de Casanova. C'est-à-dire qu'il serait finalement fidèle aux femmes qu'il a conquises.
Mais bien sûr, il y a même cet épisode extraordinairement émouvant, où Henriette, qui est une des femmes françaises qu'il a le plus aimée, et qui a dû se séparer de lui parce qu'elle rentrait chez elle, etc., le soigne des années après, lorsqu'il est à Aix, et qu'il a attrapé encore une fois une de ses maudites véroles. C'est-à-dire, le fait soigner discrètement, sans même intervenir. Il y a un art de vivre d'une délicatesse inouïe. Puis la formule clé, c'est « mon plaisir a toujours été formé des 4/5 de celui que je donnais ». C'est-à-dire, ça dit
puis
tout.
Il reçoit un sentiment d'immortalité quand il donne du plaisir
oui,
aux femmes.
Oui, c'est ça. Oui. C'est donc quelque chose qui est extrêmement significatif pour l'époque. Je crois que la formule en question sur 100 ans, si on écoute la musique de l'époque, il faut Vivaldi ou Mozart surtout, Così fan tutte, c'est du Casanova. Enfin, voilà. Les sexes ne sont pas séparés par cette espèce de hantise, de haine réciproque que la société instrumentalise pour ses besoins de domination. Ils sont très proches l'un de l'autre. Vous n'avez qu'à prendre les tableaux de Watteau. Vous voyez que ces petits papillons, hommes et femmes, dans l'embarquement pour Cythère, etc., voilà, sont très proches les uns des autres. Mais à condition que ça tourbillonne, à condition que ça fonctionne, à condition qu'on s'amuse, qu'il y ait de la musique, de la peinture, et que les corps soient là.
Alors qu'on s'amuse. Et vous avez bien sûr quelque chose qui pour vous est très important, qui est le jeu. Il y a chez Casanova incontestablement le jeu, le joueur.
On retrouve
le portrait du joueur, une œuvre de Solers. J'ai l'impression que le jeu, Philippe Solers, n'est pas son identité profonde. Que ce qu'on vient de dire sur la fidélité, ce qu'on vient de dire sur des rapports très profonds qui s'instituent avec les personnes qu'il rencontre et qui pour lui vont compter, a plus d'importance que le jeu. Le jeu est une espèce d'entourage, de forme. Je voudrais savoir si finalement vous ne jouez pas quand vous mettez le jeu au cœur même du personnage comme étant son identité essentielle. Est-ce que finalement son identité essentielle n'est pas cachée par le jeu ?
Je ne sais pas, ça dépend de la définition que vous donnez du jeu. La plupart du temps, dès que vous dites jeu, les gens vous répondent par apparence, tricherie. Mais vous savez que c'est le seul qui dit, qui avoue dans l'histoire de sa vie, quand il triche. Aucun charlatan n'a écrit les mémoires de ses charlataneries. Casanova, oui, ce qui est une preuve de d'auto-observation et en même temps de confiance dans le jugement de l'avenir. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui a exploré toutes les coulisses de la crédulité humaine, y compris dans le domaine occultiste, n'est-ce pas ? C'est très important. Mais le jeu, ou bien vous croyez que le monde est un jeu, ça c'est une position métaphysique à la limite, hein, presque mystique.
C'est la vôtre ?
Oui, bien sûr, plutôt. Mais évidemment, à ce moment-là, vous tombez sur des gens, notamment les clergés, qui vous disent « mais tout ça c'est très sérieux, attention, 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 attention ». Et vous pouvez, comme Casanova l'a été 100 fois, être arrêté, mis en prison. En général, il se met à écrire parfois dans des difficultés extraordinaires, en se laissant pousser un nom.
Du doigt qui tremble dans les murs pourris.
Oui, mais c'est... Oui, mais c'est
magnifique.
C'est sublime, enfin. Mais oui.
En tout cas, il le raconte. On ne sait pas si c'est vrai, mais il le raconte.
Mais bien sûr que c'est vrai.
Tania Risque.
Oui, Philippe Solers, pour revenir à ce que vous dites de Casanova comme philosophe, parce que ça m'intéresse, il y a cette importance du corps. Et il y a notamment ce texte remarquable donc des mémoires de Casanova, que vous citez à deux reprises. C'est celui où il affirme que son impossibilité à concevoir un amour non incestueux d'un père pour sa fille l'a convaincu que, entre guillemets, son esprit et sa matière ne font qu'une seule substance.
Oui, bien l'esprit et la matière ne font qu'une seule substance.
Alors, voilà.
Mais vous savez, ça c'est très
difficile. Est-ce qu'on peut parler d'un matérialisme ?
Et oui, mais c'est un matérialisme bizarre, parce que quelqu'un qui vous dit ça, ma matière, mon esprit, une santé, une substance, dans la vie des gens, en général, ce qu'on peut vérifier tous les jours, c'est qu'ils ne conçoivent pas que leur matière et leur esprit soient une même substance. Ce sont des substances qui ne s'accordent pas, qui ne s'harmonisent pas, hein, qui sont en conflit. Et lui, il vous dit ça froidement, et je crois que ça va quand même très très loin. Il y a un des textes qu'on ne connaît pas de Casanova, parce qu'il a beaucoup écrit dans ses livres de bouquins, là, ce sont ces dialogues en rêve avec Dieu. Sa devise, vous savez, c'est sequere deum, c'est-à-dire la formule stoïcienne, c'est-à-dire tout à l'heure, Chantal Thomas parlait de la rencontre, tout est là, n'est-ce pas ? Il faut suivre le Dieu. Je ne sais pas où je vais, j'y vais. Et puis quelque chose va me dire, une force peut-être plus forte que moi-même, que c'est là que ça se passe. Alors en général, ça passe par des femmes, comme par hasard, dans le jeu, hein, puisque tout le monde empêche le jeu, on empêche les femmes de jouer. Donc la rencontre va se passer avec des femmes. Mais alors il dialogue avec Dieu la nuit en rêve. C'est absolument extraordinaire, ce sont des textes magnifiques qu'il faut découvrir.
Philippe Sadler, j'ai dit tout à l'heure que vous aviez le mérite de nous inviter à lire les mémoires de Casanova. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, vous donnez des textes et en même temps vous les commentez et puis vous laissez des blancs. À ma connaissance...
Faut respirer.
Oui, des respirations. Mmh. Et à ma connaissance, c'est la première fois que vous le faites avec, je dirais, ce côté systématique, en tout cas, d'un beau livre.
C'est musical, c'est-à-dire, c'est pour montrer parfois, quand je cite, il y a quelqu'un, un journaliste a dit ce matin que c'était une sorte de merveilleux digest des mémoires, mais je crois que c'est vrai, parce que les gens font semblant de lire ces 3000 pages, en fait, ils font semblant de les avoir lues, ils n'ont pas lu. Après, ils disent, ah ben maintenant je vais les lire, mais ils ne les liront pas. Donc, 261 pages, vous savez que c'est un travail assez acrobatique. Il faut vraiment sortir la quintessence. Et de temps en temps, on arrive à des contractions d'une telle beauté qu'il faut laisser
respirer. Je vais vous dire ma frustration. C'est que très souvent, vous posez la question du secret de cette légèreté, du secret de cet entrain, de ce qui fait l'énergie, le dynamisme du personnage. Mmh. Et vous n'y répondez pas. C'est-à-dire qu'il y a un tout petit peu ce que vous venez de dire à l'instant, c'est-à-dire il suit quelque chose qui pourrait être Dieu, mais qui n'est même pas nommé comme Dieu.
Si, Dieu.
À peine.
Mais drôle de Dieu.
Mais c'est pas le secret. C'est pas le secret de son énergie.
Si.
Non.
Il l'a toujours dit. Ça a offusqué le prince de ligne, qui disait, enfin, quand même, il nous embête, Casanova, il raconte tout le temps que tout ce qui lui est arrivé, c'est la providence, c'est Dieu. C'est le hasard, mais en tant que joueur...
Non, ce qui lui est arrivé, mais c'est pas le secret de son énergie. Je vous parle du secret.
Si, le secret, c'est ce qui... Mais écoutez, c'est très extraordinaire. Casanova est un type qui vous dit, avec tout ce qu'il fait, qui n'est pas convenable, c'est moins qu'on puisse dire, il vous dit que, de temps en temps, il prie. Et que l'homme, quand il prie, ne succombe pas au désespoir ni à la mélancolie, qu'il retrouve une force pour agir. Par exemple, quand il s'évade des plombs, sans Dieu, dit-il, je n'y serais pas arrivé. C'est une pirouette, mais sublime, c'est-à-dire que le Dieu de Casanova...
C'est une pirouette ou c'est le secret ?
C'est le secret de s'évader. Hein ? Il s'évade tout le temps. Et la fin de sa vie... C'est la plume qui est sur le papier, 13 heures par jour, qui, dit-il, me passe comme 13 minutes. C'est-à-dire que quand on dit le pauvre Casanova, à la fin, tous les cinéastes, ah, il est vieux, oh, il a écrit parce qu'il était devenu impuissant, 13 heures par jour, qui passe comme 13 minutes.
C'est aussi une drôle de figure de la liberté, parce que justement, ce qui ressort de ce que vous dites, c'est que finalement, il n'est ni clérical, ni anticlérical, il n'est ni soumis à la loi, ni contre la loi.
Il n'est pas du 19e siècle.
Et encore,
voilà, c'est ça. Eh bien, nous avons à sortir du 19e siècle qui pourrit dans les têtes et qui n'est pas adéquat à la situation très sérieuse dans laquelle nous sommes.
Philippe Solaire, alors bien sûr, derrière Casanova, il y a Solaire, c'est ce que je disais tout à l'heure. Entre les deux, quelle similitude ? On va écouter l'avis de Maurice Levert.
Je crois que c'est à lui qu'il faudrait poser la question. Oui, je crois, parce qu'il y a le dandisme et il y a le casanovisme. Il est bien certain que Solaire a beaucoup fantasmé sur Casanova et qu'il y a une identification qui me paraît évidente. Mais c'était vrai, vous savez, je crois qu'il y a cela avec tous les personnages dont Solaire a parlé.
Il y a
cette identification avec Vivant de Nom, elle existe. Avec Casanova, elle me paraît encore plus évidente. Et puis, on attend maintenant qu'il s'identifie au Marquis de Sade. Mais c'est ça qu'on attend de Solers. Hein. Alors, si je peux lancer un message, c'est dit, donnez-nous donc un Marquis de Sade, un Sade solercien. On le lira avec gourmandise.
Alors avant que vous nous donniez un Sade, Philippe Soders...
Non, mais moi, j'ai déjà écrit sur Sade.
Je sais. Voilà, mais je voudrais vous demander si la dualité qu'il y a dans le personnage tel qu'il a été transmis de Casanova, c'est-à-dire la dualité, la possibilité de se diviser, de s'échapper, comme vous disiez tout à l'heure...
De s'évader.
De s'évader, de partir. Quelque chose qui n'est pas tout à fait chez vous... Et qui, parce que chez vous, il y a aussi cette volonté de se confronter avec l'altérité. Alors, je voudrais vous demander si ça, il y a ça chez Casanova, cette confrontation avec l'altérité, à votre avis, ou si sur ce point, cette volonté d'aller plus loin que ce qu'on disait tout à l'heure sur la fidélité, plus loin, cette volonté d'avoir dans sa vie des points d'altérité qui continuent à exister. C'est pas un tout petit peu plus fort chez vous, malgré tout ce que vous voulez montrer, vous êtes le joueur, vous êtes celui qui bat les estrades, etc. Je sais tout ça. Mais j'ai l'impression que derrière celui qui bat les estrades et le joueur, il y a peut-être plus d'altérité chez vous que chez Casanova.
Mais si c'était la même chose, ça n'aurait aucun intérêt. Donc, il faut inventer d'autres choses. Moi, Casanova, c'est Casanova, moi, c'est moi. Ça n'a rien à voir, au fond, sauf, peut-être, cette obsession de l'évasion. Parce que les clergés changent d'allure. Ils ne sont pas ce qu'ils ont été. Ils redeviennent autre chose. On les repeint. Et les dévots reviennent toujours. Il faut combattre les dévots de son époque. Ils n'ont pas les mêmes costumes.
Les dévots, mais pas les dévotes.
Les dévotes, au contraire, sont des aides précieuses que l'on peut détourner, car elles ont beaucoup de choses à dire sur le fait qu'elles s'ennuient énormément avec les dévots.
Tania Risk.
Alors, pour conclure, on pourrait peut-être revenir sur le Casanova écrivain, dont vous rappelez en fait l'extraordinaire talent de conteur, l'art de la composition du récit, et puis surtout le style, cet art de la métaphore et de l'ellipse dans l'écriture érotique notamment, qui esquive la vision directe du sexe, tout en sachant être très précis sur certains détails.
Mais oui, c'est ça qui est étonnant.
Et finalement, pour revenir à aujourd'hui, en ces temps que vous décrivez comme prosaïque et trop cru, il y a là, chez Casanova, une fusion entre poésie et jouissance dans l'écriture poétique.
Oui, je crois. Vous savez toujours avec lui. D'abord, c'est un merveilleux conteur, mise en scène, détails précis, des lieux, de la façon de ce qu'il mange, etc. Donc, vous savez, il n'y a jamais en effet d'obscénité. Vous savez toujours ce qui est en train de se passer. Hein, pendant que je me distillais, bon, voilà, par exemple, quelqu'un d'autre vous dit. Et oui, mais ça, c'est très beau, parce qu'il faut trouver ce beau, tout à coup, comme un vin, comme un. Hein, pendant que je me distillais. Oui. Et alors, donc,
c'est pas trop, hein.
Non, parce que c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'alchimie beaucoup, donc il a une science des fluides, des matières. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne peut pas bloquer un élément de la matière. Il faut toujours que les choses se changent les unes dans les autres, et c'est toujours progressif, mélodique, musical. Pas quand il reste 12 heures au lit avec une femme, c'est long. Voilà, aujourd'hui, ça ferait peur à tous les hommes. Pas 12 heures.
C'est fluide.
12 heures, c'est le minimum. Hein? Alors que, en général, ce dont les femmes se plaignent, comme vous le savez si bien, enfin, je crois, vous devez le savoir en tout cas, c'est que ça soit fini avant d'avoir commencé.
Tout à fait.
Voilà.
Vive à la fluidité.
Antoine,
vive à la fluidité.
La
allez-y.
Non,
c'est un merveilleux écrivain sur le fond aussi. On pourrait faire, et d'ailleurs tout le monde, les éditeurs ne s'en privent pas, des extraits, un choix d'aphorismes. Bon, sois gay, la tristesse me tue. Bon, voilà. Mais on peut en faire comme ça tout le temps. C'est le génie de la langue française par un Vénitien. Qui se hausse au plus haut niveau avec des italianismes, quelque chose qui amuse les Français de l'époque. Quand il arrive à Paris, bon, la fameuse scène à l'opéra, Madame de Pompadour est là, il dit « Vous n'avez pas froid dans votre petit logis, monsieur Casanova ?»« Non, parce que mes fenêtres sont bien calfoutrées. » Alors tout le monde se met à rire et Madame de Pompadour lui dit « Mais d'où venez-vous ? De Venise. Alors vous venez vraiment de là-bas ?» Et Casanova dit « Madame, mais Venise n'est pas là-bas, mais là-haut. » Et hop, et sa fortune est faite.
Merci Philippe Soders. Je rappelle que votre livre s'appelle « Casanova l'admirable » et qu'il est publié aux éditions Plon.
Qu'est-ce que je peux faire ? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire ? Je sais pas quoi faire.
Qu'est-ce que je peux faire ? Je sais pas quoi faire.
Viens, non.
Bien, alors moi, je voudrais vous conseiller d'abord quelques livres qui concernent Casanova. On a parlé du livre de Chantal Thomas, Casanova, un voyage libertin, qui ressort chez Folio. C'est un très bon livre, extrêmement intéressant, très riche, et dans une perspective qui n'est pas tout à fait celle de Solers. Et puis, un livre qui a été très longtemps ignoré, qui a été retrouvé donc par Elisabeth Vaillant, qui est La dernière nuit de Casanova par Pierre Caste. C'est un petit essai assez extraordinaire, où on voit Deligne, d'une part, le prince Deligne, mais aussi Bernice, évidemment, discuter, dialoguer avec Casanova, avec deux autres hommes. C'est un livre qui est paru au cahier Roger Vaillant, aux éditions du Temps des Cerises. Nicolas Martin.
Moi, j'ajouterais juste brièvement qu'il faut lire aussi Le retour de Casanova d'Arthur Schnitzler. C'est un classique, mais c'est magnifique. C'est sans doute un de ses plus beaux livres.
Staccato, une émission réalisée grâce à Nicolas Martin, Tania Risk et Laurent Roth. Reportage, Stéphane Martinez, Olivier Doubre. Correspondance à Rome, Anna Lombardi. Coordination, Caroline Brouet, Béatrice Génaudot, Catherine Donnet. À la technique, Arthur Gerbeau, Philippe Leduc, Gilles Panet. Réalisation, Monique Veilleté.
Une émission d'Antoine Spire.
Cette émission a été diffusée le 15 octobre 1998 sur France Culture.